Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Lors d'un concours de peinture, des artistes avaient pour consigne de peindre quelque chose qui représente la paix. Certains avaient peint de beaux paysages, ça avait des beaux couchers de soleil ou bon, quelque chose qui représente que la nature est paisible. D'autres avaient peint des scènes avec des gens de différentes nations qui se tenaient par la main, qui se serraient dans leurs bras. Ça représente la paix aussi. Il y avait toutes sortes de concepts qui étaient représentés. Mais l'un des artistes avait attiré l'attention plus que les autres parce que lui, sur sa toile, il avait peint quelque chose qui illustrait, ben, comme vous le voyez à l'écran, une chute d'eau qu'on imaginait très bruyante, sous un ciel orageux, rempli d'éclairs, d'une pluie forte et de vent fort. Mais à l'avant-plan, on voit cette branche avec un nid dans lequel il y a des oisillons qui dorment paisiblement. Ce que l'artiste voulait représenter, c'est que la vraie paix ne dépend pas des circonstances extérieures de nos vies. Mais la vraie paix vient de l'intérieur, pas de nous-mêmes et par nous-mêmes, mais elle est produite par une force supérieure à nous, qui nous donne une tranquillité d'esprit qu'on ne retrouve pas dans ce monde. Vous savez, il vient des temps dans la vie où l'épreuve peut nous frapper tellement fort qu'on se sent comme dans une tempête qui n'en finit plus. Et ça peut provoquer toutes sortes de circonstances néfastes dans notre vie, que ce soit au niveau personnel, familial, professionnel. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'une paix profonde qui nous est possible d'avoir dans les épreuves les pires, dans les temps les plus orageux qui soient. Et cette paix-là n'est pas troublée par les circonstances de notre vie parce que elle trouve sa source dans le divin. Elle trouve sa source en Dieu lui-même. C'est une paix qui est imperturbable, qui nous donne cette tranquillité d'esprit capable de faire face à toutes les épreuves, en toutes les circonstances. En Jean 14, au verset 27, c'est Jésus qui parle ici et il nous dit qu'il nous parle d'une paix qui surpasse toute intelligence parce qu'elle n'est pas de ce monde. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Comment est-ce qu'on peut trouver cette paix-là? Est-ce que cette paix-là existe vraiment? Comment c'est possible de la vivre, de la ressentir? C'est ce qu'on va voir ce matin. Évidemment, ce ne sera pas exhaustif, parce que c'est vaste comme sujet, la paix de Dieu. Donc, j'en aborderai pas tous les aspects, ce serait impossible, mais je veux relever quand même un fait important, c'est que le premier point pour avoir la paix qui vient de Dieu, c'est qu'il faut être un enfant de Dieu. Parce que Dieu ne donne sa paix qu'à ses enfants. La paix qui vient de Dieu ne se reçoit que lorsque on est un enfant de Dieu. Alors, c'est par là qu'il faut commencer. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser la question. Répondez pas, mais questionnez-vous en vous-même. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Es-tu véritablement un enfant de Dieu qui a reçu la paix de Dieu? Et là, je ne parle pas d'avoir reçu des sacrements. Je ne parle pas non plus de pratiquer une religion, ni même de venir à l'Église ici régulièrement, ni même d'avoir grandi dans une famille chrétienne. Pour être un enfant de Dieu, il faut avoir cru véritablement et personnellement en Jésus. Mais pas, oui, je sais que Jésus est venu, notre calendrier, ça le dit, on est en 2026 après Jésus-Christ, donc Jésus est venu. Oui, je sais, j'ai appris à l'école que j'ai... Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de croire en Jésus pour qui il est vraiment et pour ce qu'il a fait véritablement. Est-ce que tu as cru en Jésus pour qui il est, pour ce qu'il a fait, et est-ce que tu l'as reçu comme le sauveur de ton âme et le Seigneur de ta vie? Parce que pour avoir la vraie paix de Dieu, c'est par là qu'il faut commencer. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, voyez-vous, à tous ceux qui l'ont reçu, ça n'inclut pas tout le monde automatiquement, là. Il y a des gens qui l'ont reçu, puis il y a des gens qui ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle fait référence dans le contexte ici à la lumière du monde, c'est-à-dire à Jésus lui-même. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez-vous, comme certains le disent, on est tous enfants de Dieu. Non, on est tous des créatures de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, on le devient. C'est ce qui est écrit ici. Là. Que Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut recevoir, c'est ce qu'il dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut recevoir Jésus personnellement et croire en lui véritablement, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. En son nom, c'est-à-dire tout ce que Jésus représente. Et ça, c'est un miracle que Dieu fait en nous. On ne peut pas faire ça par nous autres-mêmes. Parce que devenir un enfant de Dieu, comme il est écrit, ça ne vient pas de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un miracle. La nouvelle naissance que Jésus parle, c'est un miracle. La conversion à Christ est un miracle. Alors, pour trouver la paix surnaturelle que Jésus donne, cette paix-là qui assure la tranquillité d'esprit, même face à la mort et face à toutes les grandes épreuves de la vie, cette paix-là, pour la recevoir, bien, il faut commencer par devenir un enfant de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, Jésus ne donne sa paix qu'à ses enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce matin? Ça me fait penser à ce chant qui dit, peut-être que vous le connaissez, hein? « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » C'est vrai. Pour connaître cette paix-là, il faut connaître le Sauveur. Il faut recevoir Jésus-Christ comme le Sauveur de son âme et le Seigneur de sa vie. Alors, vous savez, cette paix-là, elle est extraordinaire. Moi, je l'ai reçue, je l'ai cherchée. On ne le fait pas tous pour la même raison, mais moi, je l'ai reçue. Je l'ai cherchée, Dieu m'a attiré à lui parce que j'avais peur de mourir. Pour d'autres, c'est d'autres raisons. Mais combien de gens sont angoissés à l'approche de la mort parce qu'ils n'ont aucune espérance et aucune certitude de ce qui se passe après? Est-ce que vous savez ce qui va se passer après la mort? Alors, je ne parle pas des détails de comment ça va de l'autre côté, mais est-ce que vous savez où vous allez aller après la mort? C'est important de savoir ça, parce que sinon, ça peut nous angoisser terriblement. Une fois, j'étais à l'hôpital et quelqu'un avec qui j'étais m'avait dit que il y avait un infirmier, une autre fois, qui était allé, lui, à l'hôpital visiter la personne. Il dit, j'avais demandé à un infirmier ce qui se passait parce que dans la chambre voisine, il y avait un homme qui criait et qui pleurait. L'infirmier lui a répondu, il est en train de vivre l'angoisse de la mort. C'est épouvantable, ça. Est-ce que l'idée de mourir vous fait peur? Moi, je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur peut-être de la façon de mourir, parce que je ne veux pas souffrir, hein? Je ne voudrais pas que ce soit atroce, là. Mais la mort elle-même ne me fait pas peur, parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Et mon espérance, c'est que Jésus va venir me chercher. Pas parce que je souhaite que ce soit comme ça, parce que lui l'a promis, et parce que je lui appartiens. Avez-vous cette espérance-là face à la mort? Le jour où j'ai reçu Jésus comme Sauveur et que j'ai cru en son nom, c'est-à-dire en tout ce qu'il représente, Jésus dit qu'il est l'auteur de la vie. Il dit qu'il est le vainqueur de la mort, le seul chemin qui mène à Dieu. Il est aussi la lumière du monde, parce que la vérité est en lui. Jésus est plein d'autres choses qu'il affirme dans la parole, que la parole de Dieu nous révèle sur lui. Est-ce que vous croyez en ça? Jésus est aussi l'auteur du salut. Vous savez, le salut, on ne peut pas se le procurer par nous-mêmes. C'est Jésus qui l'a accompli et c'est lui qui nous le donne, par la foi en lui. Jésus est l'auteur du salut et donc le seul qui puisse nous offrir la vie éternelle et la paix qui vient avec. Avez-vous reçu le Sauveur et sa paix? Dieu donne le salut à quiconque veut le recevoir par la foi en Jésus. Le voulez-vous? Peut-être que vous dites, non, mais moi, je ne le mérite pas. J'ai fait des choses trop horribles, trop méchantes. Ne sous-estimez pas la grâce de Dieu. Jésus n'est pas venu mourir et accomplir le salut pour des gens qui en valaient la peine, mais pour des pécheurs perdus. Toute l'humanité est déchue et perdue. Et c'est cette humanité-là dont nous faisons partie que Jésus est venu racheter à la croix. Mais son salut n'est pas donné automatiquement à tout le monde. On doit le recevoir. L'avez-vous reçu? Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? L'assurance de la vie éternelle, la paix devant la mort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la paix de Jésus est aussi pour faire face aux épreuves de la vie. Parce qu'avant d'arriver à la mort, on a une vie à vivre, puis personne ne va s'en sortir vivant. Fait que faites-vous-en pas, on va arriver au bout. Mais en attendant, on a des épreuves. Alors, est-ce que vous avez cette paix-là devant l'épreuve, ou est-ce que vous êtes sans espoir et que vous vivez vos épreuves avec fatalité parce que vous ne connaissez pas la paix de Dieu? Recevez la foi. Recevez avec foi Jésus comme Sauveur. Avec foi et repentance. Parce que le salut de Dieu et la paix qui vient avec vous sont offerts gratuitement par la foi en Jésus, en son nom, c'est-à-dire croire en lui pour qui il est, croire qu'il est mort et ressuscité pour vous. Et ça implique une prise de conscience de nos péchés. Parce que si Jésus est mort et ressuscité, il y avait une raison à ça. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, là. C'est parce qu'il devait racheter l'humanité de ses péchés. Nos péchés nous sont pardonnés, donc nous donnent accès à la vie éternelle dans la mesure où on s'en repent véritablement devant lui. Trop souvent, il est prêché que « Viens Jésus, puis tu vas te sauver. » Oui, mais ça prend la repentance aussi. Parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Ah, c'est pas populaire ça. Ah, parle pas de ça, la repentance. Ben voyons donc, Dieu est un Dieu d'amour. Oui, c'est vrai, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu juste aussi. Et Dieu serait injuste de nous pardonner nos péchés sans qu'il soit jugé, ces péchés-là. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix. Il a subi à notre place la condamnation que méritent nos péchés. Croyez-vous cela? Parce que là, ça implique qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, qu'on est obligé de passer par Jésus. Et ça demande de l'humilité et de la repentance. De la repentance. Parce que c'est à cause de nos péchés que Jésus est mort sur la croix, pour qu'on puisse en être pardonné. Mais il faut s'en repentir, c'est-à-dire les regretter, les confesser, s'en détourner et demander sincèrement pardon à Dieu pour ces péchés-là. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de réel pardon. L'Évangile, ce n'est pas un Évangile bonbon. L'Évangile, c'est le message le plus précieux qui ait jamais été entendu dans tout l'univers. Et il faut qu'il soit proclamé. Mais il faut qu'il soit proclamé avec justesse. Donc, oui, on peut être sauvé, mais ça prend la repentance. La repentance de nos péchés. Parce que Dieu ne veut pas notre religiosité. Il veut notre cœur tout entier. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Un autre verset nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu veut vous sauver pour régler le plus gros de vos problèmes. C'est celui du salut de votre âme. Et ça, quand c'est réglé, on a toute une paix à l'intérieur, parce que la mort ne nous fait plus peur. Et si vous pensez que vous n'avez pas besoin du salut, bien, détrompez-vous. Parce que si vous allez en enfer, ça sera pour l'éternité. Et la pire épreuve que vous aurez connue sur cette terre ne sera rien comparativement à ça, et ça va durer éternellement. Beaucoup de gens ne croient pas en l'enfer aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que Jésus, lui, y croyait. L'enfer, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est insoutenable, semble-t-il, selon ce que la Bible nous dit. Jésus est venu pour qu'on puisse échapper à l'enfer, parce que lui, il sait comment c'est terrible. Peut-être que vous ne croyez pas ça, ce n'est pas un message à la mode, mais la Bible, ce n'est pas un livre qui est à la mode. La Bible, c'est la vérité, et elle est hors du temps. Elle est pour toutes les époques. Et la vérité ne change pas. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole ne passera point. Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez ça? Quand on croit ça, là, véritablement, il y a une paix qui s'installe en nous, là, au plus profond de notre âme. Là. Et cette paix-là, là, elle vient de Dieu parce que c'est lui qui la donne. C'est pas, ça ne vient pas de nous, il n'y a rien de bon à l'intérieur de l'homme. Mais Dieu nous donne sa paix qui, elle, est capable de nous faire affronter toutes les épreuves et même l'angoisse de la mort avec sérénité. En fait, il n'y a plus d'angoisse de la mort à ce moment-là. Il y a juste la mort et l'assurance de ce qui va se passer après quand on appartient à Jésus. Pour recevoir le salut, la Bible dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Et c'est là que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous dit un autre texte, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est écrit en Jean 1,13 que le salut ne dépend ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, allons pas croire que parce qu'on est une bonne personne, ou parce qu'on fait des bonnes actions, ou quoi que ce soit d'autre, que Dieu va dire, « Ah, toi, là, t'es tellement bon, moi, une chance que je t'ai dans le ciel avec moi, toi, hein? » Non, oubliez ça. Parce que le salut ne dépend ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Jésus a dit en Jean 6,44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, si tu désires être sauvé, c'est parce que Dieu t'attire à lui ce matin. C'est tout un privilège. La parole de Dieu dit, « Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. » Fais-tu partie des élus? Si ton cœur brûle en dedans, là, si ton désir, si tu crois que Jésus est venu pour nous sauver, puis tu comprends peut-être pas tout, mais tu veux être sauvé, viens à Jésus simplement. Il va faire le reste en toi. Reçois-le. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en ce qu'il est vraiment, en ce qu'il a fait véritablement. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Veux-tu devenir un enfant de Dieu ce matin? Parce que c'est le premier point, c'est par là qu'il faut commencer pour recevoir la paix de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu? Peut-être que tu dis, « Oh, mais oh, je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce que les autres vont dire. » Occupe-toi pas de ce que les autres vont dire, parce que quand tu vas au jugement dernier, où on va tous passer, là, même si tu dis ça là, au Créateur, dis, « Oui, mais là, on va dire, non, je ne te parle pas des autres, je te parle de toi. Les autres, ils vont passer à leur temps. » Oui, mais j'ai peur de tout perdre. Jésus a dit que s'il y avait quelque chose de plus important dans la vie que lui, qu'on n'était pas digne de lui. On a toutes sortes de raisons dans notre tête qui peuvent nous empêcher de venir à lui. Mais est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qui est plus important que la paix de Dieu devant la mort et devant les grandes difficultés de la vie? Cette paix de Dieu que Jésus donne, il ne la donne pas comme le monde donne, parce qu'il n'y a rien d'équivalent de ça dans le monde. Tout le monde veut être en paix devant l'épreuve, mais es-tu prêt à mettre ton épreuve au pied de la croix et dire, « Seigneur Jésus, je me donne à toi, puis je te donne tout ce qui vient avec dans ma vie, donc mes épreuves, mes erreurs, mes péchés, mes manquements, mes conneries. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Ma vie, prends-la. » Si tu fais ça sincèrement, là, ceux qui l'ont fait, vous savez de quoi je parle. Mais si tu ne l'as pas fait, fais-le maintenant. C'est la plus belle décision et la plus grande décision de toute ta vie. Et la paix de Dieu va venir sur toi. Viens à Jésus. Donne-toi à lui ce matin. N'attends pas. Attends pas. Cet après-midi va peut-être être trop tard. On ne sait pas, en sortant là, de l'église, ou si tu nous regardes à la maison, peut-être qu'en allant sur la rue cet après-midi, tu peux te faire frapper, tu peux faire une crise cardiaque, il peut arriver n'importe quoi. On ne sait pas quand la mort va être là, mais on sait qu'elle va venir. Mieux vaut être prêt à ce moment-là. Veux-tu être en paix face à ça? Tu peux l'être ce matin, maintenant. Reçois Jésus comme ton sauveur. De tout ton cœur, de toute ton aide, de toute ta force. Invite Jésus à venir à toi. Parce que si tu as le désir de le faire, c'est que c'est déjà lui qui te pousse à le faire. Alors accepte son invitation. Reçois-le comme sauveur maintenant. Dis-lui dans tes propres mots que tu regrettes tes péchés. Dis-lui sincèrement que tu regrettes tes péchés. Que tu crois en lui, ce qu'il a fait à la croix, sa mort et sa résurrection pour te sauver. Et reçois-le comme sauveur. Et demande-lui la paix qui vient avec. Et il va te la donner. Il va te la donner. C'est le premier point pour recevoir la paix de Dieu. Le deuxième point pour avoir la paix de Dieu, c'est d'être conscient de la présence de Dieu. La paix de Dieu, c'est premièrement d'avoir l'assurance du salut, parce qu'en sachant ça, le pire de nos problèmes est réglé. Et ça, ça apporte une grande joie, n'est-ce pas? Ensuite, la paix de Dieu nous rend capables de faire face aux épreuves de la vie, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu sera toujours avec nous. Vous savez, le Seigneur n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuves dans la vie. Il n'a jamais promis une telle chose. Au contraire. Lisez Jean 14, 15, 16 et bien d'autres textes. Vous allez voir qu'il avertit ses disciples Jésus avant de partir qu'ils en auraient des épreuves, des tribulations. Et c'est comme ça, là. Il y a bien des gens qui disent, ils prêchent un évangile de prospérité, qui disent qu'avec Jésus, tu n'as pas de problème. Écoutez pas ces gens-là, ils disent n'importe quoi. Ils disent des mensonges. Ils ne prêchent surtout pas la Bible. Parce que jamais la Bible ne dit qu'un enfant de Dieu n'a pas d'épreuve. Si vous pensez ça, bien, pensez que Jésus lui-même a été très, très malmené. Que les apôtres sont tous morts martyrs. Et que l'histoire de l'Église est rouge sang, du sang des martyrs. Et que nous-mêmes, dans nos vies, on a des épreuves. Alors, ce n'est pas vrai qu'on n'a plus d'épreuves. Mais Jésus a promis d'être toujours avec nous afin que nous puissions supporter les épreuves. Et ça, c'est rassurant parce que Dieu est tout-puissant. Et comme Dieu est tout-puissant, il n'est jamais dépassé par aucune situation. Êtes-vous prêt à faire confiance à quelqu'un qui sait de quoi il parle? Hein? Ah, moi, j'ai un problème avec mon char. Ah, mais ça donne bien, je connais le meilleur mécanicien au monde. Hein? C'est-tu pas rassurant, ça? Ah, mais moi, j'ai un problème, là, je dois passer devant la cour, devant le juge, tout ça. Oui, mais fais-toi-en pas, t'as le meilleur avocat du monde. Hein, c'est-tu rassurant, des choses comme ça? Mais là, devant n'importe quelle épreuve, Jésus dit qu'il est avec nous et qu'il est tout puissant. Pas très, très, très puissant. Être très, 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 très puissant, c'est d'être très, très fort. Mais être tout puissant, c'est bien au-dessus de ça. Il n'y a pas de degré de difficulté dans le Dieu Tout-Puissant. Pour lui, guérir un rhume ou créer l'univers, c'est pas plus dur. Parce qu'il est tout-puissant. Hey, c'est rassurant, ça, de savoir que Dieu, qui est tout-puissant, est avec ses enfants à tous les jours, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec ça? Dites-moi un amen. Merci. Non. Alors, quand on est conscient de la présence de Dieu avec nous, là, est-ce que ça ne devrait pas nous donner une grande paix, ça? Hein? De savoir que le Dieu Tout-Puissant, le seul et l'unique, est avec ses enfants tout le temps. Waouh! Comme la tempête semble beaucoup moins pire à ce moment-là. Une chose que j'aimerais souligner, une chose importante, c'est que la présence de Dieu là, ne se trouve pas dans un feeling temporaire, mais dans une condition permanente. Oublions pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui font l'erreur de rechercher une expérience avec Dieu plutôt que de rechercher Dieu lui-même par la paix que le Saint-Esprit nous donne. Ils recherchent une sensation ou une manifestation et quand ils ne l'ont pas, ils sont malheureux. Et quand ils l'ont, ils concluent que Dieu est avec eux, comme si la présence de Dieu était optionnelle à quelque chose. C'est une erreur. C'est une erreur et théologiquement, il n'y a pas d'appui. Dieu n'est pas dans un feeling ou une manifestation. Dieu est avec nous tout le temps. Tout le temps. Alors, recherchez-le pas dans quelque chose de qui pourrait devenir une béquille sur laquelle vous vous appuyez pour sentir la présence de Dieu, parce que votre foi va être sans cesse ébranlée. Plusieurs chrétiens m'ont dit au fil des années que ils allaient dans des églises où on leur disait que, écoute, si tu n'arrives pas ceci ou si tu n'arrives pas cela, ben c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Les gens disaient, écoute, moi je me sentais sauvé, j'ai accepté, je veux dire, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, puis je sais que je suis avec Dieu, mais la pression était tellement intense qu'à un moment donné, je me suis mis à faker. J'ai fait comme les autres. C'est qui le père du mensonge dans la Bible? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Alors, des fois, là, puis là, écoutez bien, je ne veux pas dénigrer personne, je ne veux pas être condescendant, ce n'est pas mon intention, mais je veux juste révéler une vérité qu'on a le droit de savoir et de se questionner, à dire, la présence de Dieu, là, est-ce que je vais la retrouver dans un feeling ou une manifestation ou est-ce qu'il est toujours avec moi? Parce que ça fait toute une différence dans la vie, là. Si je ne suis pas obligé de mentir là, pour faire comme les autres, puis me sentir dans la gang, bien là, je vais avoir une vraie paix. Mais si je ne vis pas ce que les autres disent qu'ils vivent, puis que là, je fais semblant pour être... C'est du mensonge. Il n'y a pas de paix là-dedans. Donc, chacun fait ce qu'il veut, puis écoutez bien, je ne veux pas limiter Dieu, là. Alors, je ne veux pas nier que des gens peuvent avoir certaines expériences charismatiques. Mais ce que je crois fermement, c'est que si on recherche Dieu dans ces choses-là, on fait fausse route. Parce que Dieu ne se trouve pas là-dedans. Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Et moi, je crois ce que Dieu dit. Je crois même que le Seigneur nous prive parfois de ressentir sa présence justement parce qu'il ne veut pas qu'on devienne dépendant de ces choses-là. L'omniprésence du Seigneur, c'est-à-dire le fait qu'il est toujours avec nous en tout lieu, en toutes circonstances, en tout temps, ce n'est pas lié à la manifestation de sa présence. Dieu est présent, qu'on le sente ou non. Alors, essayons pas de mesurer sa présence par des émotions ou des manifestations, parce que si on s'appuie là-dessus, on s'appuie sur une béquille trompeuse dont on ne pourra plus se débarrasser et qui va constamment ébranler notre foi. Dieu est là tout le temps, qu'on le ressente ou non, et notre foi ne devrait pas être dépendante d'une émotion ou d'une expérience. Quand on devient un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est en permanence. Qu'on le sente ou non, Dieu est là et n'est pas dépendant de ce que nous, on peut ressentir. Ça devrait vous donner une paix. Ça devrait nous donner une paix. Et je relève ça, encore une fois, je le précise, c'est pas pour dénigrer personne ou être condescendant avec quelque chose. C'est, au contraire, c'est pour vous dire, laissez pas votre paix être ébranlée par ça, parce que c'est pas vrai. Dieu est toujours avec ses enfants parce qu'il l'a promis. Et ça, c'est rassurant. Et cette assurance-là devrait nous procurer une paix devant toutes les épreuves. la paix de Dieu en toutes circonstances est habitable, est en nous. Bon, des fois, on ne la sent pas tout le temps, là, ça c'est vrai. Des fois, il faut la chercher, il faut se l'approprier, mais elle est là. Dieu est avec vous là, tout le temps, avec tous ses enfants, tout le temps. Et ça, ça ne changera pas. Dieu est toujours avec nous, il est omniprésent, tout puissant, et c'est pas. Et ça, c'est la plus grande source de paix et de joie qu'on devrait avoir. Alors, dans l'épreuve, pour trouver la paix de Dieu, souvenons-nous qu'il est toujours avec nous et qu'il sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. J'aimerais ça vous l'entendre dire. Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de mes problèmes. Êtes-vous game de dire avec moi? Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de mes problèmes. Répétez-vous cette phrase-là maintenant. Répétez-vous cette phrase-là maintenant. Dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, certaines épreuves peuvent être dues à un péché. Et dans ce cas-là, on doit s'humilier devant Dieu, confesser notre péché pour retrouver la paix. Parce que Dieu ne nous accordera pas sa paix si c'est un péché qui est la source de notre problème. Et là, je veux préciser ici, pour ne pas être mal compris, c'est que, et pas tomber dans un extrême, là, les épreuves ne sont pas toujours liées à un péché. Il y en a qui croient ça, il y en a qui enseignent ça, et c'est faux. Les épreuves ne sont pas toujours liées à un péché. Ça peut l'être, mais pas tout le temps. Et je dis ça parce que, quand j'étais pasteur dans une autre église dans le passé, il y avait une femme qui était venue me voir, une chrétienne d'une autre église de la région, qui, elle, avait le cancer, et là, avec maintes tentatives de guérison, elle avait toujours son cancer. Et cette femme-là et son mari ont quitté l'église enragée et triste surtout, parce qu'il se faisait dire qu'elle avait un péché caché, puis ça ne guérissait pas, c'est parce qu'elle refusait de le confesser. C'est Spurgeon qui a dit une fois, « Tant de choses sont faites pour le diable au nom de Dieu. » La paix de cette femme-là avait été brisée par un mensonge. Ce qu'on lui disait n'était pas tiré de la parole de Dieu. C'était tiré de je ne sais pas où, mais pas de la parole de Dieu. En Jean 9, j'ai prêché là-dessus dernièrement, sur l'aveugle né. Je ne l'ai pas abordé dans ce message-là, mais les gens vont voir Jésus et disent, « Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché ?» pour qu'il soit né aveugle. Jésus dit, ni un ni l'autre. Ce n'est pas à cause d'un péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Si c'est le cas, si on sait pertinemment bien qu'il y a un péché dans notre vie, alors, afin d'avoir le cœur libre et d'être en paix, bien, il y a une chose à faire, c'est de le confesser. En Jean 1,9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession du péché. Et en Jacques 4,10, il est écrit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Pour trouver la paix de Dieu à travers l'épreuve, il faut, si c'est le cas, s'humilier devant lui et confesser notre péché. Parce que le péché brime notre relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, se comportaient très, très mal. Il y avait de la corruption, il y avait de l'idolâtrie, il y avait... Bon, ils n'ont pas arrêté d'être le peuple de Dieu là, dans l'Ancien Testament, mais ils se comportaient tellement mal que Dieu ne les écoutait plus, Dieu ne les exauçait plus, et même, ils vivaient toutes sortes de malheurs. Et là, le peuple se demandait qu'est-ce qui se passe, comme aveuglé par son propre péché. Le prophète Ésaïe va leur dire, en parlant de la part de Dieu, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ils n'ont pas arrêté d'être le peuple de Dieu, mais leur relation avec Dieu a été brisée. À cause du péché. Pas d'une façon définitive, parce que comme Jean nous dit, comme Jean écrira des centaines d'années plus tard, 800 ans plus tard, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, si dans notre vie, on sait pertinemment bien qu'il y a un péché qui ne devrait pas être là, bien, aucun péché devrait être là, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est, il faut le confesser, il faut avoir l'humilité devant le Seigneur de dire, Seigneur, c'est assez. C'est assez. J'ai ce péché-là dans ma vie là, qui est là depuis trop longtemps, puis je m'attache peut-être à lui parce que c'est bon le péché, hein? Ça goûte bon, c'est beau, ça sent bon, ça nous fait du bien. Mais c'est toxique. C'est du poison qui nous gruge par en dedans. Et c'est un voleur de joie et un voleur de paix. Le péché vole notre paix. Et ça va de soi parce qu'il brise notre relation avec Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as un péché dans ta vie, c'est peut-être à cause de ça que tu n'as pas la paix de Dieu. Prends pas de chance, confesse-le. De toute façon, c'est toujours une bonne chose de le faire. Confesse ton péché. Et tu verras si la paix de Dieu ne revient pas à toi. Est-ce qu'il y a un péché qui t'enlève ta paix? Qui t'amène de la culpabilité? Du regret, des remords, confesse-le. Confesse-le maintenant. N'attends pas. Confesse-le maintenant. Parce que Dieu est plus grand que ton péché. La grâce de Dieu est beaucoup plus grande que ton péché. Cesse de te convaincre avec un mensonge qui vient de l'enfer à dire, « Non, mon péché est trop grave, Dieu ne me pardonnera pas. » C'est une insulte à Dieu de penser ça. Il n'y a aucun péché qui est plus grand que la grâce de Dieu. Confesse-le maintenant. Confesse-le et reçois la paix de Christ en retour. C'est comme ça que tu vas pouvoir affronter ton épreuve et que ton esprit va redevenir tranquille. Pour trouver la paix de Dieu à travers l'épreuve, il faut aussi rester confiant en Dieu. La paix de Dieu ne se trouve pas en étant insouciant face à nos problèmes et en vivant dans le déni comme si on essayait de se convaincre que nos problèmes n'existaient pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, là. Rester confiant en Dieu, c'est que quoi qu'il arrive, on sait qu'il sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Et de lui demander de la réclamer, sa paix. Vous savez, l'épreuve est normale dans la vie. Dieu se sert de nos épreuves pour nous corriger, pour façonner notre caractère, pour nous faire grandir spirituellement, pour se glorifier, pour éprouver notre fidélité ou notre obéissance envers lui, ou pour un paquet d'autres raisons. L'épreuve est normale dans la vie et elle fait partie du plan de Dieu. Et ceux qui disent le contraire, l'Évangile de prospérité, ne s'appuie pas sur la Bible pour dire ça. L'épreuve est normale. L'Écriture en est plein d'exemples. Regardez ici ce que Pierre va nous dire. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Et en Jean 16, 33, on peut lire, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Oui, l'Évangile de prospérité, ça ne tient pas la route, là. « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Ça, c'est le vrai Évangile. Les épreuves sont réelles. Essayons pas de les nier. Elles sont là pareil. Mais notre paix, là, puis notre assurance, on peut la trouver dans le fait que Jésus a vaincu le monde. Alors, prenons courage, frères et sœurs. Ce n'est pas à nous qu'il faut regarder, c'est à lui. La paix, cherchez-la pas en vous-même, par vous-même. Elle est en vous-même si Dieu l'a mis. Mais elle ne vient pas de vous, elle vient de lui. Et cette paix-là, elle est extraordinaire. Alors, arrêtez de vous faire accroire, si c'est le cas, que l'épreuve n'est pas normale, que quand on est si j'ai des épreuves, c'est parce que je suis un mauvais chrétien ou c'est parce que j'ai un péché caché dans ma vie. Comme j'ai dit, ça peut être le cas, mais c'est loin d'être tout le temps le cas. Parce que l'épreuve, elle est normale. Jésus a été éprouvé. Les apôtres ont été éprouvés. Tout le monde l'est. C'est normal. Jésus n'a jamais promis qu'on n'aura pas d'épreuve. Ce qu'il nous a promis, c'est d'être avec nous dans l'épreuve. C'est d'être avec nous dans l'épreuve. Jésus veut qu'on apprenne à lui faire confiance en toute situation. Jésus veut qu'on apprenne à danser avec lui sous la pluie plutôt que de fuir la tempête. L'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, Paul en prison, c'est un mauvais chrétien, Paul? Alors Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est impossible de ne pas s'inquiéter du tout. Là. Ça serait de vivre dans un autre monde. Là. Je veux dire, on ne peut pas ne pas s'inquiéter. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que il ne faut pas laisser nos épreuves nous submerger. Vous savez, quelqu'un qui tombe dans une rivière, ce n'est pas le fait de tomber dans la rivière qui va faire qu'il va se noyer. C'est s'il laisse l'eau embarquer par-dessus lui. Ne vous inquiétez de rien. Autrement dit, là, laissez-vous pas submerger par vos problèmes, parce que Dieu est plus grand que le plus grand de vos problèmes. Donc, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Faites-lui confiance. Remettez vos problèmes à Jésus. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, cette paix-là se trouve ici par des prières, des supplications. C'est tout à fait normal de prier puis de crier à Dieu puis de dire, « Seigneur, sors-moi de là. » C'est tout à fait normal. Même Jésus, sur la croix, a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Avec des prières et des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Des actions de grâce en se souvenant de l'action de Dieu passée dans notre vie. Ah, Dieu m'a déjà béni, ça m'a fait du bien, puis je sais qu'il va le faire encore. Merci Seigneur. Puis merci parce que à travers cette épreuve-là que je suis en train de vivre, là, je sais que tu as un plan. Tu as le big picture que moi je ne vois peut-être pas, mais toi tu le vois. Puis Seigneur, tu es au contrôle parce que tu seras toujours plus grand que le plus grand de mes problèmes. Hey, ça ne donne-tu pas une vraie paix, ça? Je peux savoir un amen là-dessus? On a tous des épreuves qui provoquent à l'intérieur de nous des sentiments tantôt de peine, tantôt de colère ou de frustration ou d'amertume ou de toutes sortes de sentiments comme ça qui nous pourrissent la vie. Et ce qui est le plus frustrant là-dedans, c'est que la plupart du temps, pour ne pas dire la majorité ou pour ne pas dire la totalité du temps, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Des fois, on pense qu'on contrôle, mais on ne contrôle pas grand-chose dans la vie. Hein? On ne contrôle pas grand-chose. Mais savez-vous quoi? Dieu, lui, contrôle tout. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu a le pouvoir de changer les situations parce qu'il est tout-puissant et qu'il sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Alors, restons confiants en lui. Comme ça, nous allons trouver la paix de Dieu à travers l'épreuve en sachant qu'il dit, « Seigneur, moi, je ne contrôle rien, mais je te fais confiance parce que je sais que tout n'était jamais dépassé par la situation. » Jésus ne fera pas nécessairement disparaître notre problème. Des fois, ça fait partie de son plan. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner la paix qu'on a besoin pour la supporter afin que son plan s'accomplisse. En 1 Corinthiens 10, 13, la parole de Dieu nous dit, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que, quoi? » Que vous puissiez la supporter. Wow! Hey, Dieu balise nos épreuves. Dieu balise nos épreuves. Premièrement, il permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. On le voit dans le livre de Job. À deux reprises, Satan s'est présenté devant Dieu et a demandé à malmener Job. Dieu a dit, OK, mais il a fixé une limite. Touche pas à sa vie. Jésus a dit, à un moment donné, je pense que c'est à Pierre, ma mémoire est bonne, dit, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Donc, le diable a demandé à vous malmener pas à peu près. Il a demandé à Dieu. Il est obligé de demander la permission à Dieu pour faire quelque chose. Hey, notre Dieu est extraordinaire, là. Puis notre Dieu, il balise les épreuves dans nos vies. Alors, des fois, il dit oui, des fois, il dit non, mais il limite tout le temps l'action de l'ennemi. C'est rassurant, ça. Vous trouvez pas ça rassurant? Moi, je trouve ça rassurant. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, tentation pourrait être aussi traduite par épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Wow! Il me semble que devant l'épreuve, là, c'est un poids qui débarque des épaules. Ça me donne une certaine paix, ça. La paix de Dieu, que Dieu est au contrôle, qui limite mes épreuves, qui ne permettra pas que je vois tenter au-delà de mes forces. Puis en plus, il va me donner ce que j'ai besoin pour la supporter. Wow! Quel Dieu extraordinaire! Quel Dieu extraordinaire! Avoir la paix de Dieu, c'est le premier point. Donc, lui appartenir, pour la trouver, pour trouver cette paix de Dieu dans l'épreuve. Ensuite, il faut être conscient de sa présence. Il faut s'humilier devant lui. Il faut rester confiant. Puis une belle chose, s'approprier les promesses de Dieu. Ça donne une grande paix. La Bible regorge de promesses pour nous. Puis quand on est capable de se les approprier avec confiance, bien, la paix de Dieu s'installe en nous. Voyons quelques exemples qui nous est donné dans la parole de Dieu. Exemple de promesses qu'on peut saisir et qui vont nous aider à trouver la paix de Dieu. Dans le psaume 34, 19, il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Wow! On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Je peux vivre quelque chose d'intense, mais de savoir que Dieu est là, il est près de moi parce que j'ai le cœur brisé, puis qu'il sait que j'ai l'esprit dans l'abattement, donc il est là pour m'écouter, il est là pour entendre ma prière, il est là pour me donner la consolation dont j'ai besoin. Il me semble que ça me donne la paix, ça. Ça aide. C'est une belle promesse, ça. Oublions pas que Dieu est près de nous quand on souffre. Un autre psaume, tellement beau. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Wow! N'est-ce pas là une belle source de paix, ça? De savoir qu'on peut aller se réfugier vers Dieu. C'est saint Augustin qui disait un jour, « Si tu veux fuir, ne fuis pas loin de Dieu, fuis vers lui. » Parce que c'est lui le refuge qui ne manque jamais dans la détresse et qui nous donne le secours qu'on a besoin. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Wow, quelle assurance! Il peut arriver n'importe quoi, les pires situations qu'on peut. C'est ça que le psalmiste représente ici, là. Les montagnes qui chancellent au cœur des mers, les flots qui mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le psalmiste nous parle d'une situation extrême qui le dépasse. Il n'a aucun contrôle sur les événements. Mais il sait. Et ça lui donne la paix, ça. Que Dieu est pour lui un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour ça qu'on est sans crainte. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 17. J'ai-tu sauté un, moi, là? Non, 1 Corinthiens 10, 13, voilà. Aucune tentation, je l'ai dit tantôt. Dieu balise nos épreuves. Je passe à l'autre. 2 Corinthiens 4, 17. La détresse que nous éprouvons en ce moment, voyez-vous, ceux qui disent que dans l'Évangile de prospérité, qu'on n'a pas d'épreuve, ils devraient lire un petit peu plus la parole de Dieu. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante. Qu'elle nous prépare. Là, je pense que j'en ai coupé un bout. Mais tout ça pour dire que nos afflictions de ce monde sont peu de choses comparées à la gloire éternelle qui nous attend quand on sera dans la présence glorieuse du Seigneur Jésus. On peut vivre des choses horribles, terribles sur cette terre. Je ne veux rien enlever à ça, mais disons-nous que c'est rien comparativement à la gloire et au bonheur. En prorata, c'est rien à tout ce qui nous attend dans la présence de Dieu. Ça devrait nous donner une paix, sachant que tout ça est temporaire, que Dieu est au contrôle, qu'il le sait, et qu'il y a des promesses de gloire beaucoup plus grandes pour nous que des épreuves que cette vie nous offre. Et dans le cas ultime, quand on sera avec le Seigneur, hein, la parole nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » C'est nous autres, ça. « Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car les premières choses ont disparu. Tout ce qu'on peut vivre dans ce monde, même si c'est terriblement souffrant, douloureux, tout ça est temporaire et voué à disparaître pour nous promettre un avenir éternel de gloire et de bonheur sans fin. Est-ce qu'on n'a pas un Seigneur magnifique? Hein? Extraordinaire. Alors, apprenons à nous approprier, et il y en a d'autres là, apprenons à nous approprier les promesses de Dieu avec assurance. Parce que ce n'est pas des promesses en l'air. Un célèbre prédicateur a dit un jour, « Toute promesse de l'Écriture est un engagement écrit de Dieu. Nous pouvons donc nous y appuyer et rappeler au Seigneur son engagement. » Tu l'as dit. Le Créateur ne trompera pas sa créature qui s'empare de cette vérité. De plus, le Père Céleste ne trahira pas sa parole à son enfant. Wow! C'est quand on prend Dieu au mot que notre cœur est en paix, mes amis. C'est quand on prend Dieu au mot que notre cœur est en paix. Et le dernier point, priez. Priez pour obtenir la paix de Dieu. La prière est très importante durant tout le processus parce que c'est elle qui nous connecte avec Dieu. Et la prière met en action la puissance de Dieu. Alors, ne la négligeons pas. En Jacques 5,13, la Bible nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Qu'il prie. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de souffrance. C'est normal, la souffrance, l'épreuve. Mais si on est dans la souffrance, la parole de Dieu nous dit de prier. De prier ce Dieu tout-puissant, omniprésent, qui n'est jamais dépassé par aucune situation et qui sera toujours plus grand que quoi? Que le plus grand de nos problèmes. La prière. Suivons ce conseil et la paix de Dieu viendra tôt ou tard nous rassurer. Comme les petits oiseaux, dans mon histoire au début, qui étaient capables de dormir malgré un environnement orageux et qui n'avaient rien de paisible, nous aussi, on peut avoir la paix dans nos épreuves. Parce que la paix de Dieu est celle que lui-même met en nous, en toutes circonstances. Et aucune circonstance extérieure ne pourra l'enlever. Une écrivaine chrétienne originaire de la Hollande, qui a été une ex-prisonnière d'un camp de la mort nazie, peut-être que vous la connaissez, Corrie ten Boom, a écrit ceci. Si vous regardez au monde, vous serez dans la détresse. Si vous regardez en vous, vous serez déprimé. Mais si vous regardez à Christ, vous serez en paix. Ça rejoint les paroles du psalmiste dans le psaume 34 qui dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » La vraie paix ne consiste pas dans l'absence de conflit, ni dans l'absence de danger, ni dans l'absence d'épreuve. La vraie paix se trouve dans l'assurance que Jésus est toujours avec nous et qu'il ne nous arrivera jamais rien qu'il n'aura lui-même permis. Et quoi qu'il arrive dans ce monde, n'oublions pas que c'est léger en comparaison de la gloire éternelle qui nous attend en Jésus-Christ. Alors, restons fidèles au Seigneur et trouvons notre paix en lui. Lorsque l'épreuve nous frappera, puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette paix. Une paix qu'on ne peut pas retrouver dans le monde. Peut-être qu'on peut avoir une certaine paix dans la richesse, dans la santé, dans une personne ou dans quoi que ce soit, mais tout ça peut nous être enlevé du jour au lendemain. mais la paix que toi tu donnes, Seigneur, la paix que toi tu donnes, elle est là, bien réelle, et elle est plus puissante que tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Et Seigneur, si quelque chose dans notre vie vient brimer cette paix-là dans notre relation avec toi, montre-le-nous. Amène-nous à tomber sur nos genoux et à te le confesser, Seigneur. Et Seigneur Jésus, si quelqu'un qui entend ce message ce matin ou plus tard, si quelqu'un ne t'appartient pas, mais qu'il est à la recherche de la vraie paix, Seigneur, je te prie d'intervenir dans sa vie afin de l'attirer à toi et de le sauver. Et merci, Seigneur, pour cette paix qui change tout en toutes les circonstances. Sois béni, Seigneur Jésus, sois adoré. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.